le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Des milliers de partisans de l'unité espagnole dans les rues de Barcelone en ce moment même, une semaine après le référendum d'autodétermination catalan qui a hypothéqué l'avenir politique de l'Espagne, les manifestants appellent à retrouver la sagesse. Mariano Rajoy utilise quant à lui la Constitution comme bouclier aux velléités séparatistes, analyse d'Ilan Malka au début de ce journal. En Ukraine, quelle issue à la guerre dans le Donbass minée par le séparatisme pro-russe? Hier, une mystérieuse rencontre s'est tenue à Belgrade entre deux émissaires russes et américain. Précision à suivre de Laurent Rouy. En France, le Festival des correspondants de guerre de Bayeux récompense un reportage controversé sur la torture en Irak. Le photographe reconnaît avoir participé pour continuer à travailler avec les militaires. Analyse de Dimitri Beck du magazine Polka dans un instant. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du Globe et Nabila Hamel. En Espagne, ils étaient jusqu'ici quasiment inaudibles. Les opposants à l'autodétermination en Catalogne se mobilisent aujourd'hui dans les rues de Barcelone. Manifestation à l'initiative de la plateforme anti-indépendantiste de la société civile catalane. Ses partisans, à l'image de l'écrivain Mario Vargas Llosa, ont rappelé que le séparatisme est loin de faire l'unanimité dans la région. En parallèle à Madrid, le camp conservateur est à l'offensive une semaine après le début de la crise politique. Interview de Mariano Rajoy dans le quotidien national El País hier soir. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour Anne.
Le chef du gouvernement espagnol reste très ferme avec les indépendantistes.
Oui, si jamais les séparatistes proclament une indépendance unilatérale, comme ils menacent de le faire, Mariano Rajoy répondra de manière très claire. Il n'hésitera pas à mettre en application l'article 155 de la Constitution. Cet article, qui n'a jamais été utilisé encore, prévoit de suspendre l'autonomie d'une région en cas de rébellion. Dans cette interview à El País, le chef du gouvernement est sans ambiguïté. J'aimerais, dit-il, que la menace de déclaration d'indépendance soit retirée le plus vite possible. Les prochains jours vont donc être décisifs. Écoutons Benoît Pellistrandi, historien, spécialiste de la politique espagnole. Pour lui, certains événements récents peuvent amener les séparatistes à davantage de modération.
Depuis mercredi et ces grandes entreprises qui ne cessent d'annoncer des délocalisations de leur siège social, la pression sur la coalition indépendantiste au pouvoir en Catalogne est énorme. Or, il faut savoir que cette coalition est extraordinairement hétérogène, puisque vous avez d'un côté le Parti démocrate de Catalogne, de centre-droit, proche des milieux économiques, et de l'autre côté, la candidature d'Unité populaire, qui est un parti d'extrême-gauche et révolutionnaire. Donc, ils n'ont pas du tout le même programme économique. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, la pression maintenant économique est telle qu'une partie du camp indépendantiste commence à douter de la sagesse de l'option jusqu'au boutiste. Il me semble même, c'est l'hypothèse que je fais, que Mariano Rajoy, qui aime temporiser, ait fait ce pari de la dislocation du front indépendantiste.
Et c'est donc mardi que l'on saura si cette déclaration d'indépendance unilatérale est finalement proclamée ou non.
Merci Ilan Malka pour vos précisions. La situation en Catalogne en toile de fond également du congrès du Parti National écossais, congrès qui vient de s'ouvrir à Glasgow. Même si la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a remisé provisoirement son projet de référendum sur l'indépendance, une motion d'urgence devrait être adoptée sur les événements en Espagne. Quel scénario pour mettre fin à la guerre en Ukraine? 3 ans et demi après le déclenchement du conflit dans le Donbass, conflit qui a fait plus de 10 000 morts selon l'ONU, les hostilités se poursuivent dans les territoires contrôlés par les séparatistes soutenus par Moscou. Pour tenter d'y remédier, une rencontre sous le sceau du secret s'est tenue hier à Belgrade, capitale de la Serbie. Un émissaire russe a rencontré un diplomate américain de haut rang. Précision signée Laurent Rouy.
Tout avait été fait pour rendre l'entretien le plus discret possible. Et d'ailleurs, personne ne sait ni où ni quand exactement il a eu lieu, ni de quoi les parties en présence ont discuté précisément. La rencontre de Belgrade a réuni d'un côté l'ancien ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Kurt Volker, et de l'autre le conseiller spécial de Vladimir Poutine, Vladislav Surkov. Elle avait pour but d'explorer des solutions à la guerre que connaît l'Ukraine depuis 3 ans et demi, en tentant de relancer les négociations de paix, dit processus de Minsk. C'est la deuxième fois que les deux négociateurs se rencontrent. Ils s'étaient vus en Biélorussie en août. Pourquoi avoir cette fois choisi Belgrade? Parce que le conseiller russe Vladislav Surkov est interdit d'entrer en Union européenne, justement depuis la guerre, tandis que l'américain Kurt Volker refuse de se rendre à Moscou. La Serbie était donc une zone neutre idéale. Les deux points qui pourraient mener à la paix en Ukraine sont connus, le déploiement d'une mission de casque bleu dans le Donbass et le règlement de la question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est là un point d'achoppement important. Pour les Russes, il faut dissocier le cas du Donbass de celui de la Crimée que la Russie a annexé au début du conflit, alors que pour les États-Unis, Donbass et Crimée doivent être considérés comme un tout dans un futur règlement du conflit.
Correspondance à Belgrade de Laurent Rouy. Au Moyen-Orient, les forces démocratiques syriennes devraient lancer ce soir l'ultime phase de leur offensive à Raqqa, ancienne capitale du groupe État islamique. C'est ce qu'annonce leur chef de guerre de cette alliance rebelle kurde et arabe. Et puis en Irak, après la reprise d'Aouija, l'armée de Bagdad poursuit son offensive dans l'ouest du pays. L'Irak, dont les mouvements de troupes résonnent jusqu'à Bayeux, dans le Calvados. La bataille de Mossoul a été largement couverte par les correspondants de guerre récompensé par un jury international hier soir. Un reportage primé fait controverse, celui d'Ali Arkadi pour l'agence 7. Reportage photo pour dénoncer les actes de torture d'une milice irakienne. Mais le journaliste a admis avoir à deux reprises participé pour garder la confiance des militaires qu'il photographiait. Écoutez ce qu'en dit Dimitri Beck, le directeur de la photographie au magazine Polka.
Il avait un objectif, c'était rapporter ces photos-là. Donc il a dû outrepasser ce que notre éthique en tant que journaliste et celle qui s'impose à la profession, il y a des limites, bien évidemment. On ne doit pas participer à l'action qui se déroule, évidemment, à l'actualité sous nos yeux, on est là pour la capter. D'ici, on voit la guerre, mais on ne la vit pas. Les gens comme Ali Arkadi, eh bien, ils risquent leur vie. L'inhumain, l'irrationnel fait partie de leur quotidien chaque seconde. Et pour pouvoir faire ce métier, effectivement, il y a parfois des petits accords et des petits pactes avec le diable qu'il faut apparemment être obligé de signer tout en gardant une ligne conductrice qui est celle de raconter avec honnêteté son travail et faire son travail. Et c'est ce qu'il a fait. Il a reconnu lui-même qu'il a dû gifler deux personnes à deux reprises pendant des actes de torture. Il s'en veut, il a du mal à vivre avec et à l'accepter. Mais en fait, pour lui, il a constitué un dossier très important de preuve de crime. Il faut voir qu'on est dans un contexte de guerre, c'est la bataille de Mossoul. Ces moments-là, ils sont extrêmement sensibles et tous les journalistes sont confrontés et se questionnent au quotidien pour savoir ce qu'ils doivent faire, jusqu'où ils peuvent aller. Et c'est le cas d'Ali Arkadi.
Des propos recueillis par David Ravier. Aux États-Unis, le cyclone Nate, qui traverse depuis la nuit dernière le sud du pays, vient d'être rétrogradé en tempête tropicale. Couvre-feu et alerte ouragan désormais levée à la Nouvelle-Orléans. Et puis dans l'île française de Saint-Martin, un mois après le passage de l'ouragan Irma, le territoire débute ses travaux. La saison touristique est toutefois perdue et dans ce secteur, 3000 emplois directs et indirects sont menacés, Thibault Lefèvre.
Côté mer, la carte postale, côté terre, le chantier. L'hôtel Grand Casse Beach Club est un acteur de poids dans le secteur. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus d'une centaine de lits et une année blanche qui mettra bien plus de temps à être surmontée. Jean-François Billot gère l'établissement depuis une vingtaine d'années.
Les assurances vous donnent de quoi rester à flot, de quoi sauvegarder dans une certaine mesure votre trésorerie. Mais ensuite, c'est cas 1, cas A pendant pas mal d'exercices. Et là, sur les 3 prochaines années, ça va être assez difficile. On a une chance de perdre un tiers de l'inventaire.
Un tiers des 1500 lits proposés dans la trentaine d'établissements de Lille et à plus court terme du chômage partiel ou des licenciements pour les salariés. Philippe Thévenet est le secrétaire général de l'association des hôteliers de Saint-Martin.
Pendant une année, disons, on ne va pas avoir de recettes du tout. Et entre-temps, on a un besoin impératif de conserver nos équipes. Or, on ne peut pas les rémunérer pendant ces périodes-là. On ne peut pas les faire travailler, puisque là, on a affaire après à des travaux très techniques, des travaux de construction qui ne sont pas leurs conditions et leur mode de travail habituel. On est en situation de déficit concurrentiel par rapport à l'ensemble de nos concurrents. Et on ne pourra pas dégager les marges nécessaires pour survivre et pour réinvestir et pour développer encore.
Selon Philippe Thévenet, une année blanche dans l'hôtellerie représente une perte de 60% du PIB de Saint-Martin.
Reportage signé de notre envoyé spécial Thibault Lefèvre à Saint-Martin. À la veille d'une semaine sociale chargée, le gouvernement d'Édouard Philippe se réunit en séminaire cet après-midi. Le Premier ministre dit vouloir millimétrer le travail de son équipe d'ici à la fin de l'année. Demain, les syndicats doivent se mettre d'accord sur une éventuelle action commune contre les ordonnances travail. Les fonctionnaires seront en grève mardi. Et puis, il faut contrer l'image de président des riches dans laquelle Emmanuel Macron est empêtré après sa réforme de l'ISF. 12h40 sur France Culture, c'est la face cachée du globe. Avec vous, Nabila Hamel. Bonjour.
Bonjour Anne. Ils sont loin d'avoir les mêmes vues sur la Syrie. Les alliés de l'un sont les ennemis de l'autre. Riyad a conclu jeudi un accord préliminaire de coopération militaire avec Moscou pour l'achat de systèmes russes de défense antiaérienne S-400 et de systèmes anti-chars qui pourront à terme être produits dans le royaume. C'était lors de la visite du roi Salman en Russie en mai dernier. C'est avec l'allié historique les États-Unis et Donald Trump que le monarque saoudien avait signé un contrat d'armement record d'un montant de 110 milliards de dollars. Catalogne versus Kosovo, c'est sous ce prisme que Belgrade dénonce, je cite, une politique de deux poids, deux mesures. Le ministre serbe des Affaires étrangères Ivica Dačić s'est demandé comment les puissances occidentales peuvent refuser l'idée d'une indépendance de la Catalogne alors qu'elles ont soutenu celle du Kosovo. Belgrade peine toujours à normaliser ses relations avec l'ancienne province à majorité albanaise, ce qui retarde son adhésion à l'Union européenne. L'Allemagne a décidé de classer l'enquête sur le scandale des écoutes présumées menées sur son territoire par l'agence américaine NSA et les renseignements britanniques. Les investigations sont closes, faute d'éléments probants, affirme la justice allemande. Si les socialistes portugais sont depuis 2 ans au pouvoir grâce à une coalition fragile avec les communistes et l'extrême gauche, les dernières élections municipales de dimanche dernier les ont renforcées. Ils ont recueilli 38% des suffrages dans l'ensemble du pays. Victor Pereira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Portugal et maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Pau. Faut-il faire une lecture nationale de ce scrutin pourtant local remporté haut la main par les socialistes?
C'est un score historique parce que, évidemment, parce que d'une part, ils atteignent 159 municipalités. Depuis 2 ans, le gouvernement socialiste est au pouvoir et a engagé une politique qui rompt avec l'austérité menée les années précédentes par le gouvernement de droite. Et c'est un succès puisque le chômage baisse, parce que le déficit a énormément baissé. Puisque d'un discours un peu catastrophiste sur les capacités du Portugal, il y a eu un discours plus optimiste exprimé sur la capacité des Portugais à reprendre les chemins de la croissance. En plus, quelques candidats locaux étaient soit bien implantés, soit ont réussi à prendre des bastions, soit de la droite, soit du Parti communiste portugais, notamment dans le sud du pays. Eh bien, cet ensemble de choses fait que le Parti socialiste a battu son record de victoire aux élections municipales et a atteint les 38% et a fait beaucoup plus que le score du PSD, mais aussi de l'autre parti de droite, le CDS. Le PSD, le Parti social-démocrate, a atteint lui son plus mauvais score, tant et si bien que l'ancien Premier ministre et leader du PSD, parce que quoi, il a tiré les leçons de cette grande victoire du PS et de cette défaite de son parti en abandonnant prochainement la tête du parti. Donc c'est historique à plusieurs plans.
Depuis les législatives de 2015, le PS gouverne grâce, je le disais, à une coalition avec le Bloc de gauche et les communistes. Quid de l'avenir de cet attelage?
Le PS qui est arrivé deuxième aux élections législatives, puis le Parti communiste, puis le Bloc de gauche, 3 partis qui ne s'entendaient pas vraiment, notamment sur des questions très globales comme l'appartenance du Portugal à l'OTAN, mais aussi sur des politiques économiques. Eh bien, cette coalition brinque-ballante, comme on l'appelle au Portugal, tiens, même là, alors, un nouveau défi parce que le PS a récupéré des voix et des municipalités qui appartenaient au PCP, le Parti communiste. Et c'est aussi un nouveau test pour cette coalition, pour voir si elle tient et si le PCP ne va pas peut-être essayer de se démarquer du PS pour essayer de préserver le capital politique qu'il a encore dans certaines localités.
Et il faut tout de même remarquer que le taux d'abstention était élevé, 48%. Comment expliquer cette désaffection des électeurs portugais?
Il y a plusieurs éléments, un peu comme partout en Europe et notamment en France. D'une part, le sentiment qu'il y a 2 partis principaux au Portugal, le PS et le PSD, et qu'il y a une sorte d'alternance sur lesquelles les individus pensent qu'ils n'ont parfois pas prise. D'autre part, il y a aussi au niveau des municipalités de la corruption, une certaine désillusion avec la classe politique. Et notamment, il y a eu un cas paradigmatique lors de ces élections, c'est dans une ville de la proche banlieue de Lisbonne, un candidat qui avait été anciennement maire, mais qui ensuite a eu de nombreux problèmes avec la justice pour cause de détournement d'argent, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, a été réélu. Alors que c'est une municipalité qui est connue pour avoir le taux de licenciés, de personnes qui ont une licence universitaire le plus important du pays. Et donc, il y a une certaine désillusion avec la politique et la classe politique depuis plusieurs années.
Victor Pereira, maître de conférence à l'Université de Pau.
Le Burkina Faso a lancé lundi une collecte de fonds pour un mémorial dédié à Thomas Sankara. Il sera érigé au siège du Conseil de la Révolution à Ouagadougou, là où l'ancien président, qui était unique
icône pour les Burkinabés, a été tué lors d'un coup d'État en 1987. Longtemps resté tabou sous le régime de Blaise Compaoré, cette affaire a connu une accélération lorsqu'en 2015, les autorités de transition avaient demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire. À dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de cet après-midi dimanche 8 octobre, temps nuageux et pluvieux sur une grande moitié nord, ciel plus lumineux en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, et les températures de 15 à Lille jusqu'à 23 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseau. À la technique, c'était Bruno Gagnère-Fontanille.